Voici donc mon message de juillet, à l'entrée des vacances, dans un été qui a de la peine à s'installer. Je vous parlerai de l'Église et de la société au XIe et XIIe siècle. Le mouvement communal des XIe et XIIe siècles, qui est à l'origine de ce que l'on a appelé le tiers-État, a connu ses débuts dans l'esprit d'association que les évêques ont suscité pour mettre fin au brigandage de trop de petits barons. Comme l'a dit Aristote, l'homme est un animal social. La société ne peut exister sans un certain ordre, ce qui suppose une autorité. Encore faut-il que cette autorité agisse dans le but d'un bien commun, sous peine d'être tyrannique, soumise à l'égoïsme d'un seul homme ou d'une faction. La doctrine sociale de l'Église analyse longuement ce bien commun, ordre voulu par Dieu pour garder l'homme dans toute la noblesse de ses droits essentiels, doctrine que les derniers papes ont longuement rappelée ces derniers temps. On y trouve la liberté de chacun d'agir selon sa conscience, assortie du devoir de chercher la vérité et de lui être fidèle. Le droit de propriété, condition essentielle pour pouvoir prendre une famille en charge. La protection des corps intermédiaires, organisation naturelle dans un domaine bien défini, comme la famille ou les groupements professionnels. L'État surveille le tout, mais se doit de respecter le principe de subsidiarité qui lui interdit de prendre leur place. En particulier, l'État se doit de respecter le droit des parents à élever leurs enfants. Il se doit aussi de respecter le droit naturel qui a été énoncé par les sages, depuis Hammurabi, Solon, Confucius et beaucoup d'autres, droits dont le résumé le plus succinct et le plus complet est connu sous le nom des 10 commandements de Dieu. Ce droit ne dépend pas de l'homme. Le mouvement communal connut un essor certain sous le règne de Louis VI et de son ministre Suger, qui voyait d'une force morale à la disposition du bien commun. Ce fut en quelque sorte le début d'un tiers-État qui ne fut officialisé que 2 ou 3 siècles plus tard. Le clergé avait la responsabilité des relations avec Dieu, la noblesse avait la charge de la sécurité extérieure, le tiers-État se chargeant de la vie de tous les jours. Le clergé et la noblesse dépendent en quelque sorte du tiers-État. J'ai lu sur le sac d'emballage d'une baguette de la boulangerie cette petite phrase « Si tout le monde devient seigneur, qui fera tourner le moulin ?» L'équilibre entre les diverses couches de la société a toujours un côté théorique et ne fut parfait que pendant de courtes périodes, je pense à l'époque de Saint-Louis. Mais la théorie est vraie dans le sens le plus profond du terme. Louis VI le Gros, de 1080 à 1137, monta sur le trône en 1108 et prit comme ministre le sage Suger, 1081-1151. C'était un petit-fils de Cerf qui fut son ambassadeur auprès de la papauté et fut élu abbé de Saint-Denis. Suger développa, au point de vue ascenseur social, Suger est un bel exemple. Suger développa l'autorité royale en favorisant la naissance de communes urbaines contre les abus du pouvoir des petits barons. Il mit en place une meilleure justice. Il fit construire la basilique de Saint-Denis, qui fut la nécropole des rois de France. Suger assura la régence du royaume pendant que Louis VII, fils de Louis VI, était à la croisade. Il s'opposa à la répudiation d'Aliénor d'Aquitaine, affirmant au roi que cette femme lui causerait beaucoup plus d'ennuis hors de son royaume que dedans. Quelque temps après, Louis VII la mit à la porte, et elle se remaria avec Henri de Plantagenet, auquel elle apporta en dot la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, la Marche, le Limousin, l'Angoumois et la Saintonge, 3 fois la surface du domaine royal. Suger fut certainement un des ministres les plus sages que la France ait connu. Dans l'affranchissement des communes, il apporta justice et bonté. Cette époque vit la naissance des corporations, associations d'artisans ou d'artistes veillant à la qualité de leur travail. Les vitraux des cathédrales en sont de merveilleux témoins. Pour ne citer que la cathédrale de Bourges, on voit dans la partie basse des vitraux du chœur une illustration des corporations donatrices, tailleurs de pierre, sculpteurs, vignerons, charpentiers, tisserands, etc. On était admis dans une corporation qu'après un temps d'apprentissage et des épreuves couronnées par la production d'un chef-d'œuvre. De nos jours, on adhère à un syndicat en versant de l'argent afin d'acquérir et de conserver des droits qui, soit dit en passant, ne sont pas forcément illégitimes. Mais pour les corporations, il fallait être admis. On appelait certains compagnons du devoir. Cette noblesse du travail fut supprimée en 1791 en même temps que les autres noblesses. La société ne tolérait plus que des droits acquis. Naturellement, les corporations avaient leur saint patron, leur drapeau, leurs représentants et leurs responsabilités. Si la société de l'époque n'était pas friande de droits écrits, elle était très riche en droits coutumiers, respectés de tous. Ce fut certainement une cause de sa stabilité, jusqu'à ce que l'orgueil et l'argent ne dominassent le monde. Il n'était pas rare que des hommes libres se disputassent avec des représentants de l'Église, car beaucoup de seigneurs étaient des évêques. Ce mélange, disons cette confusion entre deux autorités, distinctes par nature, fut fort dommageable sur bien des points. Nous en avons vu les misérables conséquences au sommet de la société dans la dispute entre la papauté et l'Empire. Nous aurons l'occasion de le revoir encore. Les sociétés moins importantes, provinciales et urbaines, ont connu des difficultés analogues avec des évêques ou des supérieurs monastiques abusant du pouvoir. Ce fut une des causes de la réforme de Luther et de son succès sur le plan politique. Cela dit, il serait malhonnête de s'arrêter là. L'Église a toujours été très attentive aux pauvres. Saint Paul parle à plusieurs reprises de l'aide apportée aux indigents et aux victimes des catastrophes. L'Église a inventé, peut-on dire, les orphelinats et les hôpitaux que l'on appelait Hôtel-Dieu. Elle a été en tête du rachat des esclaves, de Saint-Jean-de-Dieu à Saint-Jean-de-Mata, en passant par Saint-Vincent-de-Paul. Les illustres acteurs ne manquent pas. Il reste à fonder les assises de la société. L'expérience montre que toute révolution antireligieuse est antisociale par le fait même. Les principes fondateurs ne sont plus la justice et la charité, mais la cupidité, l'envie et la volonté de puissance. L'historien Salluste l'avait déjà remarqué, ce que l'on appelle amitié et union entre gens de bien devient entre gens de mal, ligue et faction. Nous l'avons constaté dans le nazisme et le stalinisme, nous le constatons maintenant dans la société anarcho-libérale qui nous étouffe sous la dictature de l'argent. On nous parle d'égalité, mais si Dieu n'existe pas et que la seule réalité est matérielle, cette égalité est impossible. Si trois personnes reçoivent un même trésor, le premier s'achètera une maison, le second le placera à la banque avec tous les risques inhérents à une telle opération, et le troisième la gaspillera au jeu. Quelque temps après, celui qui aura tout perdu ou simplement moins gagné hurlera à l'injustice. On parle de la fraternité, mais sous l'emprise des passions. La fraternité en Adam devient vite la fraternité de Caïn. L'Église voit dans l'homme avant tout une créature munie d'une âme à son image et rachetée par le sang du Christ. Nous ne sommes que les intendants des biens matériels qui nous sont confiés et que nous devons gérer en mettant en valeur les dons que nous avons reçus. Le socialisme, comme le libéralisme, ramène tout au seul mesurable. C'est une aberration, surtout quand on y joint, comme actuellement, la prétention de chasser Dieu de la vie publique et de l'âme des enfants. Il faut dire et redire que le rôle de l'État est de garantir la paix extérieure et la paix civile et de veiller à l'installation du bien commun qui facilite l'être humain dans les sept dimensions que mentionnait le père Philippe dont j'ai suivi l'enseignement pendant près de 30 ans. Premièrement, l'homme travaille selon l'ordre que lui donna le Créateur. Le côté pénible à la sueur du front n'a été déclaré qu'après la faute, mais le travail reste la grandeur de l'homme. La société doit garantir à l'ouvrier honnête un juste salaire, ce qui implique pour les résultats de ce travail un juste prix, et non des low cost, source de misère ou au moins d'injustice. Deuxièmement, l'homme souffre, constatation universelle. Le bien commun consiste à mettre en place les moyens possibles, mais toujours imparfaits par nature, de soulager les souffrances. Troisièmement, l'homme meurt, destinée inéluctable qui doit nous rappeler le côté provisoire des choses d'ici-bas. Quatrièmement, l'homme vit en société comme l'a constaté entre autres Aristote. Un rôle important de l'État est de rendre la société favorable à toutes les activités nécessaires ou simplement bénéfiques. Cinquièmement, l'homme est un artiste, et cela depuis le tout début, l'âge de pierre, comme en témoignent les magnifiques peintures rupestres. Sixièmement, l'homme aime, c'est-à-dire ne peut trouver sa fin en lui-même. Rappelons les trois dimensions de l'amour, s'emparer de ce que l'on aime, collaborer avec l'être aimé et se dévouer sans compter pour lui. L'État se doit de favoriser l'amour inévitable, en particulier le don de la vie donné par Dieu. En fin de compte, l'homme adore. La religion a toujours été une dimension essentielle de la société. Même nos dirigeants athées parlent de fonder une religion nouvelle. L'homme a toujours adoré un grand tout, comme disait Aristote, le moteur immobile. Nous vivons une époque difficile, où l'ennemi fait tout pour arracher de nos enfants et de nous-mêmes tout contact avec Dieu. Il est temps de rappeler que les parents sont les premiers responsables de leurs enfants, sans pour autant affirmer, comme certains, que l'enfant appartient d'abord à la famille. Il s'agit d'une responsabilité et non d'une possession. Nous vivons une véritable guerre de religion. Le père Daniel Ange n'hésite pas à dire « c'est le dragon rouge-feu de l'Apocalypse qui s'attaque aux enfants de la femme pour les perdre ». Prions Notre-Dame de revenir à votre aide. Bonnes vacances pour toutes puisque cette époque commence.